J'ai entre les mains le livre « Les attaques de panique, que faire pour déjouer les montées d'anxiété » publié aux éditions Midi 30, un ouvrage extrêmement bien fait, écrit par Isabelle Geninet et Amélie Seda, qui ont toutes les deux, je suis en train de lire la quatrième de couverture, elles ont toutes les deux obtenu leur doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Elles sont psychologues en pratique privée et se spécialisent entre autres dans l'évaluation et le traitement des troubles anxieux. Isabelle et Amélie offrent de la supervision clinique et donnent des conférences dans leur domaine. Elles sont également les autrices de « Tout savoir pour composer » avec les turbulences à l'adolescence. Et j'ai la joie d'accueillir, elle est au bout du fil, une des co-autrices, Isabelle Geninet. Bonjour Isabelle Geninet.
Bonjour Hélène.
Merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Alors, j'ai parcouru le livre, j'en ai lu des grands bouts et je vous dis chapeau. Premièrement, avant d'aborder le livre comme tel, qu'est-ce qu'une attaque de panique? Est-ce que ça a à voir avec une crise d'angoisse?
Oui, je vous dirais que c'est le terme vraiment spécifique là, qu'on utilise. Une attaque de panique, c'est une montée très, très soudaine d'anxiété. Donc, c'est assez brutal et ça a une durée limitée dans le temps. Donc, ça dure environ 15 minutes à son apogée. Là. Donc, mm-hmm. C'est assez spectaculaire et, je vous dirais, déstabilisant quand ça arrive. Et c'est associé donc à une panoplie là, de symptômes. Il faut généralement en avoir quatre là, sur la liste là, qui est énoncée pour parler de crise de panique. Donc, on parle de palpitations, de souffle court, d'hyperventilation, de tremblements, d'étourdissement, des maux de tête, des maux de cœur, nausées, engourdissement, picotement dans les mains, les pieds et même parfois une espèce d'impression qu'on est un peu à l'extérieur de notre corps.
Et qu'on est en train de faire une crise cardiaque.
Exactement.
Presque.
Ouais. Mais c'est souvent les pensées qui viennent un peu à l'esprit des gens, compte tenu évidemment que c'est très, très soudain et très mm-hmm. fort comme symptôme. Ben oui, il y a généralement des pensées évidemment auxquelles les gens... évidemment, qui viennent à l'esprit des gens. Donc, est-ce qu'on est en train de faire une crise cardiaque? Est-ce qu'on est en train de s'évanouir? Est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle, de devenir fou, de mourir même? Et donc, évidemment, ces cognitions-là ou ces pensées-là peuvent évidemment accentuer aussi là, les symptômes physiques là, qu'on est en train de vivre. Et ça peut arriver, dans le fond, autant quand il y a des déclencheurs précis. Donc là, chez les jeunes, on parle beaucoup, bon, des fois les examens, les exposés oraux, les situations de conflit, une rupture. Et ça peut parfois arriver dans un contexte qui est plus imprévisible. On peut être à la maison, des fois, pas être en train de faire quelque chose de bien précis. Ça peut arriver en voiture. Bon, généralement, là, il y a un niveau de base de stress qui est là. C'est assez rare qu'on fait des crises de panique quand on est calme et chill et zen. Généralement, là, ça arrive dans un contexte où on est plus stressé, plus fatigué. Mais c'est ce qui distingue, dans le fond, l'attaque de panique hein, de l'anxiété, parce qu'on peut être très anxieux sans avoir d'attaque de panique. Hein. L'anxiété, c'est plus une espèce de sentiment de nervosité, de on se sent pas bien à l'intérieur, on est tendu, évidemment, mais ça atteint pas, évidemment, l'intensité là, d'une attaque de panique.
Alors, il y a une différence à faire entre stress, anxiété et attaque de panique, mais vous parlez tantôt d'une montée d'anxiété qui crée l'attaque de panique.
Oui, en fait, exactement. Donc, l'attaque de panique, dans le fond, c'est une montée d'anxiété qui est beaucoup plus forte. Quand on parle plus d'anxiété en général, c'est une anxiété des fois qui est un petit peu plus flottante. Hein, si on est inquiet, préoccupé, puis l'anxiété souvent, quand c'est moins intense, ça peut nous accompagner pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Mm-hmm. Alors que l'attaque de panique, elle est assez définie dans le temps. On ne peut pas être en attaque de panique pendant deux jours. Là. Généralement, ça a une durée quand même très, très spécifique.
Et vous dites dans votre livre, Isabelle, que le stress et l'anxiété, ça a du bon, mais est-ce que les attaques de panique, ça a du bon, ça?
Bien, je vous dirais, peut-être moins, je vous dirais, c'est sûr que le stress et l'anxiété, souvent, on en parle d'une façon très
négative.
Moins négative. Ouais. Alors qu'il faut quand même se rappeler là, que c'est très utile dans la vie. Ça nous aide à un paquet de choses. Ça nous aide
à se motiver,
ou... à faire les choses. Ça nous aide aussi à performer jusqu'à un certain point, évidemment, sans que l'anxiété soit trop haute. Ça nous aide aussi peut-être à être plus sensible aux autres, plus à l'affût de son environnement, à se préparer, à planifier. Donc, il y a beaucoup de bons. Mm-hmm. C'est sûr que là, quand on arrive un peu dans le spectre des attaques de panique, là, effectivement, c'est probablement moins intéressant parce qu'effectivement, c'est très, très fort. Et généralement, c'est assez déstabilisant et on est un peu, des fois, paralysé par ça. Hein. Quand on fait une crise de panique, là, il n'y a comme plus de son, plus de lumière. Donc, effectivement, tout ce qu'on peut faire, c'est de laisser, dans le fond, la crise passer.
Oui, comme une vague. Hein?
Comme une vague, ouais. Effectivement. Puis ça, c'est un réflexe, évidemment, qui est peut-être des fois difficile à comprendre pour les gens. Là, ce qui est tout à fait normal, c'est que quand on vit un grand moment d'anxiété, notre premier réflexe, c'est d'essayer de le diminuer, hein? De diminuer nos symptômes, ouais. De diminuer les sensations.
On veut que ça arrête tout de suite.
On veut que ça arrête de se calmer, de tout ça. Et effectivement, au contraire, une bonne gestion de l'anxiété, ça va passer par un certain accueil de sensations physiques, des fois, qui peuvent être désagréables. Agréable. Donc, de juste, des fois, de faire de la place ou d'accepter là, qu'on vit un moment d'inconfort, il faut se rappeler aussi que l'attaque de panique, ce n'est pas dangereux. Et ça, c'est important, évidemment, que les gens le sachent. Et on en parle aussi dans le livre, parce qu'évidemment, si je pense que c'est dangereux, ça va être difficile pour moi d'accueillir ces sensations-là. Si je sais que ce n'est pas dangereux, c'est juste une réaction de mon système d'alarme interne là, qui est parti, eh bien, ça va pouvoir peut-être m'aider à moins dramatiser les
bien
sensations,
sûr.
Puis à moins est en lutte là, contre les symptômes physiques.
Et à quel besoin vous vouliez répondre en écrivant ce livre? Vous vous adressez vraiment aux jeunes,
oui.
On a l'impression en tout cas. Bien, c'est le but de la chose.
Exactement. Donc, je voudrais que c'est peut-être les 16-25 ans, je vous dirais, évidemment, des jeunes qui peuvent être en proie à faire des crises de panique. On sait que l'anxiété est en hausse là, chez les jeunes depuis quelques années. On en a parlé beaucoup. Ça a commencé avant la pandémie et ça s'est pas amélioré depuis la pandémie. Hein. Bon, il y a de plus en plus d'antidépresseurs, de prescrits, il y a moins de ressources dans les écoles. Même l'accès aux ressources en privé, des fois, c'est difficile. Et on parle beaucoup aussi d'anxiété de performance, qui est une anxiété là, qu'on rapporte beaucoup chez les jeunes. Et c'est sûr que ben, quand on fait de l'anxiété de performance, c'est sûr qu'on peut être, on peut peut-être être porté pour certains jeunes à faire aussi des crises de panique. Donc, c'est un livre qui s'adresse vraiment aux jeunes qui font des attaques de panique et qui se reconnaissent là-dedans. Et souvent, ce qu'on nous dit, ce que nous, on le voit un peu en clinique, ben quand je fais une crise de panique, les gens, autour de moi, ils savent pas quoi faire.
Ouais.
Ils me disent de me calmer, de respirer, mais on voit que même sur le terrain, là, les intervenants, des fois, sont un peu déstabilisés et ils n'ont pas toujours les outils. Ou des fois, c'est difficile de faire des interventions qui sont vraiment aidantes, sont un peu déconcertés par ça. Donc, nous, dans le fond, on voulait outiller le jeune. C'est un livre aussi qui peut intéresser peut-être des intervenants également, des gens qui travaillent avec des, qui sont en contact avec des jeunes et aussi les parents, parce qu'il y a une section sur un peu comment accompagner son jeune, quelles attitudes peuvent être aidantes ou moins aidantes.
Pourquoi vous avez mis les pages bleues pour cette section?
Oh, je vous dirais que ça, c'est vraiment pour distinguer, effectivement, là, que ça s'adressait aux parents. Je vous dirais que c'est un choix là, de nos éditrices. Donc, c'est donc la section pour les proches, parce que le reste du livre est vraiment adressé aux jeunes directement.
Oui.
Donc, les pages en bleu, c'est vraiment pour les parents, pour les adultes qui accompagnent des jeunes, là.
Mais est-ce que vous diriez que votre livre qui a été fait pour des jeunes peut aussi intéresser les moins jeunes?
Bien sûr, effectivement.
Je peux vous le confirmer, en tout cas.
Absolument, parce que les crises de panique, ce qui est intéressant, en fait, c'est que selon certaines enquêtes, là, on pense qu'il y aurait environ 20 % des adultes qui feraient au moins une crise de panique dans leur vie. Donc, on peut faire des une crise de panique à tout âge. Et oui, le livre peut s'adresser aussi, évidemment, à des moins jeunes, à des adultes. Il y a aussi un excellent livre qui a été aussi, où Mme Saïda, ma co-auteure, a participé à la nouvelle édition, qui est La peur d'avoir peur, mm-hmm. qui est un livre aussi qui a été conçu pour les adultes aussi là, qui font des attaques de panique, de l'agoraphobie. Donc, effectivement, là, c'est un livre aussi qu'on peut consulter. Mais oui, notre livre peut aussi tout à fait s'adresser à des gens qui vivent ce genre de problème-là.
Qui n'ont pas entre 16 et 25 ans.
Qui ont vraiment n'importe quel âge.
Oui, tous vos conseils sont pertinents pour tous ceux et celles qui s'intéressent au phénomène et qui vivent aussi avec des attaques de panique. Je me demandais, madame, est-ce que je peux vous appeler Isabelle?
Bien sûr,
oui.
Bien sûr.
Est-ce que les attaques de panique s'atténuent avec le temps seulement si on apprend à mieux gérer notre anxiété?
Ben, je vous dirais oui. C'est clair que si j'apprends, par exemple, que c'est pas dangereux, si j'apprends effectivement à moins combattre les sensations physiques, c'est sûr que si, c'est ça, je suis capable un peu de démystifier ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, si je m'empêche pas de faire des choses, hein, c'est-à-dire si je m'empêche pas de circuler, d'aller dans des situations où je pourrais en faire, ben effectivement, oui, il est possible, effectivement. De moins en faire. Il y a des gens qui arrêtent d'en faire de façon un peu spontanément. Il y a des gens qui ont besoin effectivement là, d'un suivi peut-être, là, d'avoir un accompagnement. C'est sûr que le problème peut s'aggraver si je commence à appréhender effectivement d'en refaire d'autres. Hein. Donc, je fais une crise de panique par exemple en voiture, au travail, à l'école, et là, je commence à avoir peur d'en refaire d'autres. Mm-hmm. Et donc là, il peut y avoir un cercle vicieux qui s'installe. Donc, je commence à être attentif à mes sensations. Il me semble que je me sens un peu stressée ce matin, il me semble que mon cœur bat plus vite, donc je deviens hyper vigilant à mes sensations.
Est-ce que c'est à ce moment-là que ça peut devenir un trouble panique?
Oui, exactement. Un trouble panique, en fait, c'est vraiment quand les gens commencent à un peu modifier leurs habitudes, hein, un peu en raison des crises de panique. On commence à appréhender d'en avoir, commence à être plus attentif à leurs symptômes, tu sais, commence à y penser beaucoup, là, d'un coup que ça m'arrive là. Et l'agoraphobie, ben ça, c'est quand les gens arrivent à éviter carrément là des situations. Par peur de faire des crises de panique. Donc, on peut faire des crises de panique sans faire d'évitement, sans faire d'agoraphobie. Dans certains cas, effectivement, ça peut être accompagné d'agoraphobie.
Oui. Et auriez-vous quelques exemples de conseils, parce qu'il y en a plein dans votre livre, des stratégies qui pourraient aider la personne aux prises avec des attaques de panique?
Oui. Ben, je voudrais que la première des choses, puis dans le livre, on l'explique bien, il y a un chapitre sur la démystification de chaque symptôme d'attaque de panique. Et ça, c'est important de comprendre. Hein. Par exemple, ben, si mon cœur bat plus vite, c'est juste qu'il est plus oxygéné. Si j'ai l'impression que je me sens un peu étouffée, c'est juste que les muscles de mon cou se rétrécissent pour qu'il y ait plus d'air qui aille dans mes poumons pour faire face à une menace. Donc, toutes ces réactions-là sont des réactions, dans le fond, de notre système d'alarme pour faire face à une menace. Donc, elles ne sont pas dangereuses. Ça, c'est vraiment important de lire ce chapitre-là, de comprendre et vraiment pour démystifier tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Quand je comprends qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, bien, j'en ai moins peur. Si je comprends pas qu'est-ce qui se passe, bien, c'est clair que je vais peut-être plus appréhender, plus, évidemment, avoir peur de mes sensations.
L'inconnu fait toujours peur.
Exactement. Après ça, on disait, bon, essayez de pas trop résister. Je sais que c'est difficile. Les gens disent, c'est tellement intense, là, c'est dur de... Mais effectivement, essayez de pas trop résister, de pas trop lutter. Plus j'essaye, effectivement, que ça diminue. Et on peut essayer parfois des techniques de respiration, tout ça, mais des fois, ça fonctionne pas. Faut comme juste être dans une approche où on essaye, effectivement, là, d'accepter la vague. Après ça,
à ce moment-là, on s'assoit ou on se couche?
Oui, on peut s'asseoir. Mais même des fois, on n'est pas obligé de changer. Si on est en train de marcher, on peut continuer à marcher. En fait, c'est que ce qu'on sait, c'est que quand on fait une crise de panique, on est tout à fait capable de fonctionner. On a l'impression qu'on n'est pas capable de fonctionner. OK? Mais généralement, on demande aux gens, bien, restez dans la situation. Ne rentrez pas chez vous si vous êtes à l'extérieur. Essayez de rester dans le contexte pour que le cerveau comprenne que vous n'êtes pas en danger.
Okay, donc, n'appelez pas l'ambulance.
Exactement. Donc, effectivement, de ne pas changer ses habitudes, de rester dans la situation où on se trouvait, de se montrer aussi bienveillant envers soi, parce que c'est vrai que c'est très douloureux, c'est difficile, une crise de panique. Donc, d'essayer effectivement de...
De ne pas trop se juger.
Hein, souvent, les gens disent « Oh mon Dieu, parce que je suis vraiment pas capable de gérer mon anxiété si j'en suis rendu là, ça n'a pas d'allure. » Alors que, comme j'expliquais, il y a des gens qui sont très, très anxieux, qui ne font pas de crise de panique. Donc, c'est pas forcément... C'est un problème qui est spécifique en soi. Donc, c'est juste qu'il faut le voir comme ça. Se montrer, effectivement, oui, se montrer bienveillant, pas trop se juger, ne pas que les proches aussi ne jugent pas trop également leur jeune aussi en disant, ben là, calme-toi, respire par le nez, c'est pas si grave que ça.
Ça va passer, c'est sûr que ça passe, mais il faut avoir une façon de dire les choses.
Exactement. Oui. Donc, je vous dirais que oui, et oui, il y a différentes choses là, qu'on peut faire là, pour essayer de, par soi-même, je vous dirais, de travailler ce problème-là et éventuellement d'aller consulter si on voit qu'on a de la difficulté à mettre en place là, certaines stratégies.
Et puis la base, vous les rappelez, l'importance des habitudes de vie, bien manger, bien dormir, bouger.
Oui. Bien, c'est sûr que je dirais que les jeunes, c'est des choses qu'on dit à tout le monde, évidemment, que ça va aider là, pour la gestion du stress, mais c'est sûr qu'il faut regarder un petit peu la base. C'est clair que si je suis un étudiant, je me couche à 3 heures du matin, je mange mal, je fais pas d'exercice, ça se peut que je sois plus vulnérable aux crises de panique. C'est pas automatique, là. Mais de façon générale, oui, il faut peut-être faire attention. Ça peut jouer effectivement à notre mode de vie. Et des fois, les jeunes sont un petit peu moins, des fois, c'est normal. Quand on est jeune, on pense un petit peu moins à ces choses-là. Mais c'est clair là, qu'il faut peut-être regarder le sommeil, la gestion du stress en général, comprendre est-ce que j'ai des stresseurs dans ma vie pour lesquels je dois peut-être m'occuper, hein, effectivement, si j'ai du stress, évidemment, à l'école, dans mes relations familiale, dans mes relations sociales. Il y a peut-être des choses aussi à faire qui pourraient m'aider là, pour que peut-être je diminue le niveau de stress général.
Isabelle Geninet, un grand merci pour cette entrevue. Je rappelle que vous êtes la co-autrice avec Amélie Seida, c'est comme ça qu'il faut prononcer?
Exactement.
De Les attaques de panique, que faire pour déjouer les montées d'anxiété, publiées aux éditions Midi 30. Un excellent ouvrage.
Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.